Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Marcel Ngombo Mbala. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison des pluies? Eh bien, nous en parlons dans ce nouveau numéro du magazine Okapi Service. Michel Ouyumbu, président du conseil d'administration de la Corporation Nationale des Ingénieurs BTP en sigle, et notre invité, il est déjà en ligne. Michel Ouyumbu, bonjour. C'est monsieur Marcel à l'antenne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve tout à l'heure. Vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas. Écrivez à service@radiokapi.net. Vous pouvez également poster vos réactions à l'adresse Okapi Service. Vous pouvez aussi poster vos réactions sur la page Facebook Okapi Service. Polydor Basunga est à la mise en nom de ce magazine, réalisé et coordonné par Tati Mapoukou sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Au micro, c'est Marcel Ngombombala.
Okapi, Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Dans plusieurs quartiers de la ville province de Kinshasa, les ménages sont exposés aux inondations en saison de pluie, situation qui ne manque pas de causer des dégâts matériels, rendant parfois difficile la circulation des personnes et leurs biens sur certaines artères principales. La situation est identique dans les autres provinces de la RDC, où on enregistre parfois de cas de décès. Ces inondations seraient dues au manque de curage de rivières et autres canalisations dans les zones urbaines du pays. Quels sont les autres facteurs à la base de ces inondations? Que faut-il faire pour éviter les débordements des eaux des pluies? Nous en parlons avec notre premier invité qui est en ligne, Michel Ouyumbu, qui est président du conseil d'administration de la Corporation Nationale des Ingénieurs BTP. Et encore une fois, bonjour Michel Ouyumbu.
Bonjour Monsieur Marcel.
Nous parlons donc de comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie. Alors dites-nous, quelles sont d'abord les causes majeures de ces inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie?
Très bien, merci beaucoup M. Marcel. Toutes mes salutations à la grande équipe de la grande radio, la radio Okapi. Toutes mes salutations à la grande équipe de l'émission Okapi Service. Et mes sincères salutations aussi à tous les auditeurs de cette grande chaîne de radio partout où ils se trouvent. Et merci encore une fois de plus d'avoir fait confiance en nous, à la Corporation Nationale des Ingénieurs BTP, au travers notre modeste personne, pour apporter notre contribution à ce débat, un débat intéressant. De prime abord, une inondation peut se définir comme étant une submersion temporaire, naturelle ou artificielle d'un espace par de l'eau liquide, et ce qui fait que ces inondations-là peuvent être, on peut les prévoir d'une manière générale. Et pour le prévenir, il y a des politiques qui doivent être définies et des politiques qui doivent être d'abord définies puis réalisées. Vous savez, M. Marcel, tous les problèmes que nous avons dans la ville sont des problèmes qui ont comme dénominateur commun le non-aménagement correct de nos villes. Si nous ne disposons pas d'un aménagement urbain correct, ça veut dire d'un plan d'aménagement, Si nous ne disposons pas d'une politique, d'abord d'une politique d'aménagement qui va évidemment produire ce plan d'aménagement, qui va finalement définir la production des logements sociaux, des logements d'avenir général et des logements sociaux. Et si nous ne définissons pas une politique publique pour la salubrité urbaine, eh bien, nous aurons toujours le problème d'érosion d'une part, d'inondation d'autre part. Donc, tout l'ensemble des défis urbains peuvent être résolus s'il y a des bonnes politiques publiques en matière d'aménagement urbain, pardon, et des bonnes politiques publiques en matière de salubrité, de production de logements et ainsi de suite. Ça signifie que nous avons un souci majeur chez nous. Nous avons des villes qui se développent n'importe comment. Nous avons des villes qui ne suivent pas une planification urbaine, mais qui sont en train de se développer sur la question démographique. Nous avons tout un tas de problèmes qui sont communs à toutes les villes de la RDC.
Monsieur Michel Oyumbu, quand vous parlez du manque d'absence de bonnes politiques en ce qui concerne l'urbanisation, mais il y a tout de même un bureau qui est chargé de cette question d'urbanisation, le BAU.
Oui, mais il ne suffit pas d'avoir un bureau d'études d'aménagement urbain. Il suffit d'avoir ce bureau, bien sûr. Il suffit de la part des autorités politiques d'avoir une politique cohérente dans la matière et une volonté politique pour qu'une fois ces politiques affichées ou ces politiques sous forme de plans d'aménagement, qu'il y ait deux moyens qui vont suivre pour la matérialisation des options. Monsieur Marcel, il y a de cela, je crois, 10 ans passés, dont nous avons été conviés à une conférence sur Kinshasa Horizon 2020. Et c'était alors que l'ancien gouverneur Kimbuta était en train de gérer l'administration de la ville. Et cette grande conférence sur Kinshasa Horizon 2020 a défini quand même certaines orientations qui n'ont jamais été matérialisées, qui n'ont jamais été appliquées. Il est évident que la ville de Kinshasa dispose de ce qu'on appelle le schéma d'orientation stratégique de la ville, d'orientation stratégique de la ville de Kinshasa, mais ce schéma d'orientation, depuis qu'il a été promulgué par un édicte du gouverneur, il y a, je crois, 2-3 ans passés, ça n'a jamais été mis en œuvre. Il ne suffit pas seulement de disposer des administrations, il ne suffit pas seulement de produire des études sur les aménagements de ville. Il va falloir absolument qu'il y ait une volonté politique et qu'on puisse mettre la main dans la poche et engager, disons, donner de moyens pour que ces politiques-là soient matérialisées. Sinon, nous allons courir après des fléaux, sinon nous allons courir après des problèmes, et nous n'aurons pas, le moyen pour élever les défis humains, le défi d'insalubrité, le défi des manques de logement, le défi des érosions, le défi des... Nous avons tout un ensemble de défis qui sont fait une réponse à la manière non organisée que nous gérons nos vies.
Alors, lorsque vous parlez de ces forums Kinshasa 2020, vous avez dit qu'il y avait des propositions intéressantes. Est-ce que on peut avoir une idée sur les lignes essentielles de ces propositions par rapport à Kinshasa Horizon 2020?
Merci beaucoup. Bien avant Kinshasa Horizon 2020, il y a eu ce qu'on appelait à l'époque le plan d'action national, je crois, quelque chose comme ça, sur l'habitat, dont le document a été produit avec le concours de l'UN Habitat. Il y a eu Kinshasa Horizon 2020, il y a eu les SOSAC, mais dans tout ce qu'on a eu comme échange, nous avons constaté que les villes sont soumises à beaucoup de défis. Défis de transport, défis en ce qui concerne la production de logements sociaux, défis en ce qui concerne la gestion des fonciers. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous le savons très bien, tous les chefs de terre qui sont en train de distribuer ou à lotissement. Alors, l'ensemble de ces défis-là ne peut être résolu que le gouvernement, au travers une politique claire et cohérente en matière de développement de nos villes, soit élaborée et que cette politique, comme je l'ai dit tantôt, soit accompagnée de moyens financiers et d'une volonté de régler l'ensemble des problèmes que nous avons dans la ville.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que, pour ce qui est de la ville de Kinshasa, dans sa configuration actuelle, il n'y a plus rien à faire. Il faut plutôt essayer de voir comment construire une nouvelle ville au niveau de la périphérie de Kinshasa.
Bon, ça, c'est un autre débat, M. Martin. Il est évident que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la ville de Kinshasa sont tellement nombreux qu'on ne saura peut-être pas les résoudre quand à 10 ans. Mais si nous avons une grande volonté, il faut évidemment faire une bonne planification et essayer de voir, de régler tant soit peu, quels sont les problèmes les plus urgents qu'on peut régler à court terme ou à très court terme, à moyen et à long terme. Il est aussi, ça c'est une autre option, il est aussi évident que la structure de la ville de Kinshasa, telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas, ça serait très très difficile pour résoudre, parce que vous avez 12 millions d'habitants, et c'est pas seulement 12 millions d'habitants sur d'autres sujets. C'était de 2 ou 3 pays. Il y a des pays, nous le savons très bien, de 4 millions d'habitants. Si nous prenons pour 4 millions d'habitants, ça nous fait 3 pays. Si nous prenons pour 3 millions d'habitants, ça nous fait 4 pays. Les problèmes sont, c'est vrai que les problèmes que nous avons sont des problèmes majeurs, mais néanmoins, la plus grande difficulté, c'est que nous n'avons jamais pris l'option d'arrêter un moment pour ne pas continuer à créer d'autres problèmes. Malheureusement, nous continuons à les créer. Ce qui fait que nous serons en train de courir après les vents. C'est très compliqué. Mais si, au niveau des autorités, nous avons une politique publique qui définit clairement ces orientations-là, ces différents aménagements, et que nous faisons une planification pour qu'un à un des problèmes qui se posent dans la ville, ce que nous appelons les vrais défis humains, soient levés, nous serons alors en mesure d'y aller d'une manière planifiée, tout en sachant que nous sommes des pays pauvres, mais avec beaucoup de volonté, même avec trop peu de moyens, on peut toujours réaliser ou poser des actions concrètes.
Il y a également ceux qui pensent qu'il faudra peut-être faire un effort pour ce qui est du curage des rivières et autres canalisations dans les zones urbaines du pays. C'est simplement parce que lorsqu'il y a des fortes pluies qui s'abattent sur la ville ou dans d'autres coins du pays, le fait que le rivière ne soit pas curé et d'autres canalisations, c'est ce qui permet également des inondations.
Je parle d'une manière générale qu'on devait définir des grandes politiques publiques en matière de salubrité humaine, mais en matière aussi des ouvrages d'assainissement que nous devons avoir. Il est évident qu'aujourd'hui, vous avez par exemple les rivières qui traversent la ville de Kinshasa, qui nous sont des victoires pour évacuer les eaux de pluie vers le fleuve, généralement. Ces rivières-là sont envahies et même leurs lits sont totalement occupés. À ce point que la largeur des rivières se retrouve rétrécie à certains endroits, et à cela s'ajoutent tous les alliages de sable et les immondices qui finissent dans ces rivières et qui enlèvent complètement aux rivières qui traversent la ville la capacité d'évacuer de l'eau. Ce qui signifie qu'à la moindre pluie, vous avez un débordement. Donc tout cela, M. Master, doit être défini par une politique globale. Si on ne le définit pas, on ne saura pas venir à bout de tous les problèmes que nous avons. Il est vrai qu'il faut absolument curer le caniveau, mais il y a des quartiers où vous n'avez même pas ce caniveau-là. Il y a des quartiers où vous avez des caniveaux qui existent, mais qui ne fonctionnent pas, tout simplement parce que les déchets qui ne sont pas évacués finissent dans ce caniveau-là. Vous voyez que le problème est global, le problème est tellement complexe qu'agir sur un aspect de problème n'est pas résoudre le problème. Il faut agir en identifiant ou l'ensemble des aspects des problèmes que nous avons dans la ville, et en essayant de les guider un à un, c'est de cette manière-là que nous pouvons croire ou que nous pouvons voir ou résoudre les problèmes que nous avons. Malheureusement, nous sommes en train de faire une gestion circonstancielle des problèmes que nous avons, au lieu de faire une intégration globale de l'ensemble des problèmes. Et de les résoudre une fois pour toutes. Bien sûr, en y allant, problème après problème.
Voilà, merci de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons de comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie avec notre invité Michel Ouyumbu qui est président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs. Si vous êtes intéressé, vous avez une préoccupation, vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez à service@radiocapi.net. Vous pouvez également poster vos réactions sur la page Facebook au Capi Service. Service.
Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Radio Okapi. Okapi. Okapi Service avec Marcel Ngombo Mbala.
Okapi. D'accord, vous êtes à Mikalayo, Kasaï Central. Voilà, Achille, quelle est votre question?
Oui, je n'ai pas une question, mais j'ai des préoccupations et propositions à faire par rapport au sujet. Oui, ce problème d'inondation que nous vivons ces jours était déjà prévenu par les architectes dans les temps colonial, les temps où on a construit nos grandes villes. Mais c'est de notre temps, nous-mêmes qui sommes le porte-malheur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous circulez dans de grands quartiers de la ville, par exemple des Kanangisi, et les quartiers Snell, le Bianchi et autres, les gens ont construit même jusqu'au bord des petites rivières, et même dans le bassin des ravins. Et d'ailleurs, si on parle seulement que le temps de la pluie, mais non, ils vivent de l'eau là, même la période de la saison sèche, il y a toujours de plus de l'eau, et ils ont construit vraiment dans les eaux. Et quand il y a la saison de pluie, nous assistons toujours à des cadastres, des pertes de biens, et puis des pertes même, voire même des pertes en vie humaine. Donc il y a toujours les dégâts qui se produisent. Mais moi je pense à toutes ces deux questions, qu'on essaie d'abord simplement à identifier le facteur tel que mauvais emplacement des constructions, manque de systèmes de canalisation d'eau, de la pluie, dans le ménage et aussi dans les aspects. Et aussi manque de création de puits et d'isolement d'eau canalisée. Et aussi, même dans les artères, là, s'il y a des artères principaux, ils ne sont pas asphaltés. Il y a des possibilités parce qu'il y a des véhicules qui sont surchargés et qui créent des puits au bord de rues. Et puis, quand il y a la pluie, il y a stagnation d'eau. Alors, pour résoudre ce problème, il faut étudier chaque facteur. Et si on énumérait, et c'est énuméré par mes précédents, et trouver une solution relative à chacun d'eux, ensemble, et le gouvernement et la population, parce que dites seulement le gouvernement, non, mais la population aussi doit développer sa mentalité qui est faible aujourd'hui, et de penser toujours que c'est le gouvernement qui doit résoudre le problème. Mais si c'est l'engagement et de la population qui subit des pertes là, et répéter des biens, et aussi avec l'appui du gouvernement, moi je pense qu'on va trouver des solutions facilement par rapport à ces problèmes, cause de problèmes. Voilà ma contribution, monsieur.
Merci Achille Omar, depuis Mikalay au Kasaï Central. Christian, bonjour.
Bonjour Marcel et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Christian. Vous avez une question, préoccupation par rapport à ces sujets sur comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie?
Juste une petite contribution. Moi, je dirais qu'il faudrait, dans un pays comme l'autre, et dans un pays tropical, il faudrait vraiment sensibiliser la population à éviter de construire beaucoup plus dans des terrains marécagés, mais aussi à éviter à jeter des immondices et autres débris dans de caniveaux et autres moyens d'évacuation des eaux de la pluie. Et de cette manière, nous pouvons lutter tant soit peu contre les inondations. Parce que vous êtes sans savoir que souvent, la population, pour faute des corbeilles dans des parcelles, en fait, la population se permet à jeter des immondices dans des caniveaux. Ça, oublions que ce sont ces caniveaux-là qui nous facilitent, en fait, afin que les eaux s'écoulent facilement. Et d'autre part, il y a une part des responsabilités de l'État qui doit vraiment nécessairement avoir cette pratique des tirages des caniveaux de manière un peu régulière afin de faciliter la population. Parce que la population peut, c'est vrai, aujourd'hui éviter de jeter les immondices, mais si il n'y a pas un accompagnement de l'État, si l'État lui-même n'arrive pas à curer les caniveaux, ça sera un peu difficile. À cela s'ajoute aussi les drainages des rivières. C'est aussi très important parce que des fois, les eaux des rivières qui se débordent, c'est aussi à cause de mauvais états de lits des rivières. Alors, si on fait un peu ce genre de travail, je crois que nous pouvons arriver tant soit peu à mettre fin ou à solutionner un tout petit peu à cette situation qui gangrène notre société.
Merci Christian d'avoir appelé de Kinshasa Joseph Leloup et depuis le Lubumbashi cette fois-ci. J'espère que ça va marcher. Bonjour Joseph.
Bonjour, Papi Service.
On vous écoute Joseph. Une question, une préoccupation par rapport à ces sujets sur comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie.
D'accord. Merci beaucoup pour le choix du thème. À mon avis, j'avais au moins trois propositions à proposer au gouvernement. Vous savez, d'abord, le gouvernement doit mettre fin à l'autorité et interdire de bâtir dans des terrains marquagés, surtout à des gens qui n'ont pas de moyens pour construire. Je donne l'exemple de Calémy, là où j'ai grandi et où je vais d'abord récemment. Calémy, c'est une île au bord du lac Tanganyika. Vous pouvez constater que le lac Tanganyika était protégé par un mur qu'on appelle en construction la digue. À mon avis, quand vous arrivez là-bas, vous allez constater que cette digue est détruite par les citoyens non informés et ils prennent les moyens pour aller construire les petites maisons et ils construisent ça au bord du lac. Et quand le lac bombe, il y a les inondations presque partout et chaque fois qu'il pleut, c'est plus de 25 maisons emportées par les eaux du lac. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Le gouvernement doit interdire d'abord les populations à construire anarchiquement. Puisqu'il y a des constructions anarchiques qui se passent à ce côté-là, et dans des terrains engagés avec les gens qui n'ont pas assez de moyens. Et quand il pleut, c'est l'inondation et des catastrophes qui se passent. De deux, vous allez constater qu'il y a des gens qui construisent dans des voies d'accès des canalisations des eaux, des rivières. Et quand il y a inondation, les caniveaux collecteurs d'eau sont bouchés, il n'y a pas accès d'eau. Et l'eau bombe et retourne dans des maisons d'habitation et ce sont des dégâts. Autre chose, peut-être le gouvernement crée une loi qui interdit de bâtir anarchiquement à des bords margagés là où les gens n'ont pas de moyens pour construire des bons ouvrages. Voilà un peu ce que j'avais à commenter dans ces bons sujets qui semblent être vitaux pour la vie des gens. Et surtout dans ma province du Tanganyika où les eaux font beaucoup de catastrophes. Les gouvernements, là, ils ne voient rien. Des fois, ce sont les gouvernements qui lotissent dans des terrains engagés et donnent à des gens qui n'ont pas de moyens pour construire. Et des fois, ils échouent même à protéger les ouvrages qui étaient construits pour la protection des inondations. Merci beaucoup, au Capus et Lévis.
Merci à vous aussi, Joseph Leloup, d'avoir rappelé de Lubumbashi. On revient à notre invité, Michel Ouyumbu. Vous avez suivi tour à tour ses intervenants. En tout cas, à les entendre, la responsabilité est partagée d'une part entre d'abord la population elle-même qui construit n'importe où, n'importe comment, et il y a également de l'autre côté l'État congolais qui joue pas bien son rôle. Il y a des constructions qu'on devait carrément interdire plutôt que de laisser les gens construire dans des endroits qu'il faut pas. Michel Ouyumbu.
Merci beaucoup, M. Marcel. Je partage totalement les avis des intervenants, Christian et Joseph Lolo. Mais je voudrais dire quelque chose. Si l'on doit sensibiliser la population à ne pas se débarrasser de l'immondice dans les caniveaux et dans les rivières, ça veut dire qu'il faut définir une bonne politique en matière de salubrité publique. Si la bonne politique est définie, que l'État prend en charge les immondices, il sait où les amener, comment le transporter, comment le valoriser. De l'autre côté, le travail de sensibilisation de la population sera très simple. Vous ne pouvez pas, d'une part, demander à la population de ne pas vous débarrasser des immondices dans les rivières, dans les cultures, et ne pas leur donner un moyen pour que se débarrassent des immondices. Ça sera interdit, en fait. La deuxième chose, c'est la même chose, et ça revient au même pour le premier cas. Si vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'autorité publique, produit de logements sociaux pour vos citoyens, ça veut dire que cette population va se mettre à se débrouiller. Et quand la population se débrouille, ce n'est pas toujours de la bonne manière. Donc, il est vrai qu'il faut qu'il y ait une sensibilisation pour que les gens ne se débarrassent pas des immondices n'importe comment, pour que les gens n'habitent pas des zones collinaires ou des zones inondables, mais la meilleure façon de le faire, c'est de finir ces politiques publiques-là et donner des moyens pour créer un service qui fonctionne correctement en matière de salubrité publique, pour qu'il y ait un service qui fonctionne correctement en matière même de tirage de caniveaux et de rivières. Là aussi, je note quelque chose pour la tirage de rivières. Vous savez, M. Marcel, nous avons beaucoup de rivières qui traversent la ville de Kinshasa. Les rivières sont des exutoires pour les zones de pluie finies avant d'être évacuées vers le fleuve. Mais regardez ce qui reste comme la guerre à ces rivières. Les gens se sont placés même sur les lignes de conduite de ces rivières-là, résidant totalement à la guerre de rivières, tout simplement parce qu'ils sont à la recherche d'un logis. Quelqu'un qui est à la recherche d'une habitation, il ne sait pas où habiter, eh bien, il accepte de pas d'aller se porter où. Mais si une bonne politique de production de logements, d'une manière générale, et de logements sociaux d'une manière particulière, est mise en place, et qu'elle fonctionne efficacement pour répondre aux besoins en logement, nous avons moins en moins de problèmes. Et pour la ville de Kinshasa, par exemple, vous avez entre 7 000 à 8 000 tonnes de déchets qui sont produits aujourd'hui. Combien de tonnes de déchets toutes les opérations de la ville évacuent? Mais si vous ne savez pas évacuer cet ensemble de déchets qui est produit aujourd'hui, ces déchets-là finiront dans les rivières, ces déchets-là finiront dans les ouvrages d'assainissement, et les conséquences. C'est ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui.
Alors, c'est ce qu'on est en train de déplorer aujourd'hui, mais dites-nous, vous êtes président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. BTP, c'est bâtiments en travaux publics, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Alors, voilà, mais dites-nous, comment vous, à votre niveau, vous pouvez également contribuer pour faire en sorte quand même qu'on puisse pas continuer à assister à ces genres de situations dans le pays, hein, pour ce qui est de l'urbanisation de nos villes.
Notre grande contribution, M. Marcel, c'est la sensibilisation. Les gens ne parlent que de la sensibilisation de la population. Ça, c'est vrai. Il est aussi évident qu'il faut sensibiliser les politiques, les décideurs politiques. Parce que ce sont les décideurs politiques qui ont le dernier mot sur les différents problèmes que nous avons. Nous parlons avec les autorités politiques, nous allons vers eux, nous leur expliquons que cette façon de faire ne va pas résoudre le problème. Cette façon de faire, c'est y apporter des solutions. Mais les politiques publiques doivent être définies clairement par le gouvernement et le moyen doit être mis en œuvre pour que ce genre de choses ne reviennent pas. Donc, c'est en fait pas notre grande contribution. Notre grande contribution, c'est qu'on définisse les politiques publiques et qu'on définisse les différents plans dont nous avons besoin pour que ce problème soit réglé une fois pour toutes. Au niveau de la population, je vais bien sensibiliser cette population. Mais M. Massé, je ne vais pas vous demander à vous, vous habitez à 0 mètre d'une rivière ou à 0 mètre de ouvrages d'assainissement, alors que vous n'avez aucun moyen de vous débarrasser de vos immondices. De ça, il y a de... comment on les appelle ici? Des jeunes gens qui passent après-midi, passent le 5 en train de collecter à domicile les déchets domestiques, par exemple. Mais si moi, à mon niveau, je me débarrasse de mes déchets domestiques en les mettant entre les mains de ces gens pour à qui je paye 1000 francs, 2000 francs, il est parti. Mais la question qu'on se pose, où est-ce que ces déchets-là vont finir? S'ils ne finissent pas à un bon endroit, ils finiront à des endroits comme les carrières et les ouvrages d'assainissement. Donc, à ce niveau, nous pensons que la sensibilisation, s'il y a une catégorie de la population qui doit être sensibilisée, c'est d'abord le décideur politique. Une ville se gère, et gérer une ville, c'est d'y prévoir. On ne s'improvise pas pour gérer la ville. La gestion de la ville, c'est une science, monsieur. Parce que ça se planifie, il y a un budget pour ça, et il y a des politiques qui sont définies, et mises en œuvre qui doivent être suivies. Et nous avons besoin de être exécuté de la bonne manière. Sinon, ce n'est pas de la génération spontanée, c'est quelque chose qui doit être planifié.
Alors, vous l'avez bien dit, la gestion d'une ville, ça s'est fait pas n'importe comment, on planifie. Alors, si aujourd'hui, il faut construire une nouvelle cité, il faut construire une nouvelle ville de Kinshasa, qu'est-ce qui doit être prioritaire pour éviter d'assister à toutes ces inondations, à tous ces problèmes d'évacuation des déchets?
mais c'est le moyen préventif pour éviter que les raisons, les politiques républicaines, d'être clairement définies.
Mais concrètement, justement, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, par exemple, vous êtes spécialiste en bâtiments et travaux publics. Aujourd'hui, on doit construire une nouvelle ville du côté de Mbacana, je sais pas moi, ou sur une vallée autour de la périphérie de cette ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui doit d'abord être fait?
Ce qui doit être fait, c'est définir le plan d'aménagement de cette ville.
Oui.
On définit le plan d'aménagement de l'espace. Cet aménagement-là va faire intervenir beaucoup de difficultés. Les urbanistes, les ingénieurs, les architectes et tous les spécialistes, tous les professionnels de la ville. Même les archéologues et les historiens. Vous savez, quand vous voulez, vous trouvez un espace vide, vous ne pouvez pas savoir quelle est la richesse archéologique de cet espace-là. Mais un archéologue peut vous dire, attention, à cette fois, il y a une richesse archéologique que vous devez respecter. Donc, la première des choses à faire, c'est de définir un plan d'aménagement de cet endroit-là, qui doit prendre en compte tous les aspects. Quand il est bien défini, il va définir quelles sont les zones où il y aura des habitations, quelles sont les zones où il y aura des industries, quelles sont les zones qui seront réservées aux activités agricoles, comment le réseau de transport va fonctionner dans cet espace-là, comment il y aura la desserte en électricité et la desserte en eau, comment on va prendre en charge l'évacuation de toutes les eaux de pluie. Voilà ce qui doit être fait en premier. C'est ce qu'on appelle le plan d'aménagement urbain.
Voilà, dans toute une planification. On vous garde encore, Michel Oyumbu, le temps d'accorder la parole à Serge Tibangou, qui nous appelle de l'Ikassi, également Steve Bouyamba, qui est à Kinshasa. Serge, bonjour.
Bonjour, Kapil, bonjour à l'invité.
On vous écoute, Serge. Quelle est votre question concernant ces sujets sur comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie?
Oui, les inondations que nous parlons aujourd'hui sont les conséquences de chercher à bâtir un pays plus beau qu'avant. Le quartier construit par le Belge ne pose pas régulièrement ces problèmes-là des inondations. Autre facteur à la base des inondations, c'est la construction anarchique. Hein? Et l'espace aussi que nous occupons n'est pas étudié par les architectes. Et c'est faire aussi soi-même ingénieur des ordres de la construction de la propre maison, ce sont les facteurs aussi qui posent ces problèmes des inondations. Et pour éviter les débordements, moi je propose si les quartiers concernés peuvent considérer ou bien avoir un œil vers le gouvernement, mais que les quartiers concernés aient aussi une caisse, c'est-à-dire une mobilisation des cotisations, des quelques sommes d'argent, permettra aussi aux jeunes du quartier de commencer à travailler chaque jour pour créer du courage ou bien créer aussi des caniveaux pour éviter les têtes des érosions dans le quartier concerné.
Alors dites-nous, Serge, à l'Ikassi, vous avez aussi à faire face à des problèmes d'inondation. L'Ikassi n'est plus cette belle ville qu'elle était il y a encore plusieurs années.
Oui, bon, la ville de l'Ikassi, jusque-là, vous savez que c'est ville à l'époque qui était une ville la plus belle de parmi les villes de la République.
À l'époque du Jadotville.
Oui, Jadotville. Oui, nous n'avons pas ces grands problèmes-là d'inondation, surtout dans notre ville. La ville est propre et je félicite aussi le maire de la ville en passant parce qu'il est en train d'entretenir la ville à tout moment avec un service de nettoyage chaque jour. La ville est vraiment propre. Nous n'avons pas ces grands problèmes-là d'inondation.
Merci Serge Tibangou d'avoir appelé de l'Ikassi. On revient ici à Kinshasa. Steve Bouyamba, vous êtes en ligne. Bonjour Steve.
Bonjour la Radio Kapi et tous les auditeurs de la Radio Kapi.
On vous écoute.
Merci beaucoup. La gestion des inondations chez nous en RDC, c'est vraiment un problème sérieux. L'invité qui est là sur le plateau, il parle d'une nouvelle ville qu'on va construire en Bankana. Il faut parler d'abord de l'ancienne ville. Qu'est-ce qu'on va faire avec la ville qui existe déjà? Kinshasa, ici, à l'époque, on appelait ça Kinlabel. Aujourd'hui, là, On n'arrive même pas à trouver un nom pour doter à Kinshasa maintenant là. Maintenant, quand je vous parle, je suis sur 13e rue Limité. Il y a des saletés et des déchets en plastique dans des caniveaux où étaient prévus pour la canalisation d'eau. Et je ne sais pas, maintenant là, si une fois la pluie, donc c'est des dégâts ici et des dégâts, et des complications ici. Il y a un problème dans notre gouvernement, je ne sais pas, il y a un ministre d'urbanisme et habitat. Il n'a même pas un programme, même pas un projet pour réhabiliter la ville. Pour qu'est-ce que c'est qu'il peut faire pour tous les Congos? Donc c'est dommage, si nous sommes dans un pays là, et la notion de gestion aux populations aussi, c'est bizarre. Avec le projet de Kinbopeto, c'est bien ce que le gouvernement est en train de faire. Mais il devrait commencer d'abord par sensibiliser la population, animer des séminaires d'encadrement pour dire aux jeunes et la population qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent gérer les indondices, comment ils peuvent gérer leur saleté. Quelqu'un qui quitte avec sa poubelle à la maison, il vient jeter ça sur le riz. Il quitte avec des saletés, il vient jeter ça dans des caniveaux. Donc c'est comme si cette notion-là n'est pas dans la population. Vraiment, le gouvernement va faire un effort pour trouver la solution. Il faut commencer d'abord par réhabiliter l'ancienne ville, au lieu de parler de nouvelles villes et tout consort.
Merci Steve Bouyamba d'avoir rappelé de Kinshasa. On reste toujours à Kinshasa. Et on va accorder la parole à l'ingénieur Chadrec qui est en ligne. Ingénieur Chadrec, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, une préoccupation, une question sur ces sujets. Comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie?
Oui, effectivement. Ce sujet, je l'ai traité, je pense, en 2016. Alors, ce que nous devons comprendre actuellement, c'est que nous sommes en présence des ouvrages d'assainissement sous-dimensionnés. Parce que ça a été dimensionné en fonction d'une population quelconque et pendant une période quelconque. Mais ce n'est pas le cas actuellement. C'est qu'on ne peut même pas parler de réhabilitation, mais plutôt de reconstruire ces ouvrages là-bas. Parce qu'on doit leur donner une capacité nécessaire pour accueillir toutes les eaux qui ruissellent actuellement. Les zones qui étaient construites avant, ça s'est agrandi. Maintenant, il y a plus de ruissellement d'eau que l'infiltration qu'on avait avant. Donc moi, mon problème, c'est que les routes que nous sommes en train de construire ou réhabiliter actuellement, en réalité, on doit reconstruire les ouvrages d'assainissement. Ces projets-là doivent contenir aussi ces projets là-bas. De façon à ce que, lorsque nous sommes en train de réhabiliter les routes, on est au même moment en train de construire les ouvrages d'assainissement. Et aussi, un autre point, c'est conscientiser les gens. On a un système de gestion qui n'existe même pas des déchets ici à Kinshasa, parce que moi, je parle de Kinshasa, vu que je suis ici à Kinshasa. Les gens doivent être conscients. Nous ne devons pas jeter les immondices sur la route, ni dans les caniveaux. C'est ce qui nous cause tous ces problèmes que nous avons. Les caniveaux qui sont d'ailleurs sous-dimensionnés, et nous y ajoutons aussi des immondices, ce qui les rend encore trop petits. Voilà que l'eau ne peut plus être évacuée comme il le faut. C'est comme ça que l'eau va se choisir un chemin, voire même aller dans les parcelles des gens. Donc c'est ce que nous devons en principe faire. Construire, réhabiliter, non, reconstruire en tout cas. C'est ça mon problème. Donc, le gouvernement a sa part de responsabilité, mais nous aussi, la population, nous avons une part de responsabilité.
Voilà, merci ingénieur Chadrec d'avoir appelé de Kinshasa. Ingénieur Michel Oyumbu, comment réagissez-vous?
Merci beaucoup, monsieur Marcel. Et j'ai bien suivi les interventions de notre ami Steve Mbouyama. Je parle depuis la ville. D'abord, il y avait quelqu'un qui appelait de la ville de Kassi. Et l'autre, je pense que Mbouyama, c'est pas si c'est de sa manière, c'est qui m'a mené à cause de ma visibilité sur la trésorerie, puis les généraux chabins. Et ce problème est tellement vaste, tellement complexe, que agir sur les conséquences ne sera jamais une solution. Il faut agir sur les causes et sur les conséquences. Et les causes, sur les causes, je suis en train d'insister, pour nous puissions avoir des politiques globales, que nous puissions avoir un réseau d'assainissement, que nous puissions avoir une politique aussi bien sur l'aménagement que sur l'évacuation des déchets. Et en ce qui concerne la proposition de notre ami pour dire qu'il faut réhabiliter la ville au lieu de construire notre ville, il y a moyen de faire les deux au même moment. On peut être en train de réhabiliter l'ancienne ville et construire une nouvelle ville. Évidemment, il y aura des problèmes de moyens, mais les deux peuvent être faits au même moment. Et la proposition de notre ami, Jean-Jacques Chadrec, sur le droit d'assainissement. Cette proposition elle est très bonne. Et elle est très bonne parce que, généralement, je prends le cas du boulevard du 30 juin. Quand on avait élargi la route, on a fait l'élargissement du boulevard du 30 juin, il y a eu des caniveaux qu'on a construits de part et d'autre. Mais ces caniveaux-là se misent sur d'autres collecteurs, d'anciens collecteurs qui existaient, qui n'ont pas été, au fait, réhabilités, ou qui n'ont pas vu l'acception changer, afin de prendre en compte les surplus de zones de ruissellement qu'on avait déjà sur le boulevard du 30 juin. Donc ça, c'est un élément complexe, parce que même quand on l'a eu sur l'avenue Landau à Selemao, quand on a construit l'avenue Landau à Selemao, et qu'on a mis des caniveaux de part et d'autre de l'avenue, et qu'on a drainé ces eaux-là vers la rivière Calamou, tous les gens qui habitent Macalamou, ou le long de Calamou, ont eu des débordements terribles des inondations chaque fois qu'il y avait la pluie, tout simplement parce que dans les volets et construction de l'avenue Landau à Selemao, on n'a pas pris en compte les tirages de la rivière Calamou. Et il n'y a pas que les tirages de la rivière Calamou. Moi, je suggère que toutes les rivières qui traversent la ville, pas seulement que ces rivières doivent être curées, mais que les berges de ces rivières soient aménagées. Soient aménagées de manière à ce qu'on évite des éboulements ou des éboulements de forêt sur la rivière, qui vont de temps en temps réduire la section de ces non. C'est toute une politique qui doit être menée, c'est toute une volonté qui doit être mise à contribution. Et c'est des moyens que cela nécessite pour que nous ayons de moins en moins de problèmes dans nos villes.
Mais ingénieur Michel Ouyoumbo, vous avez suivi l'ingénieur Chadrec qui est intervenu depuis Kinshasa. Lui, il est catégorique. Pour lui, il n'y a même plus à réhabiliter les ouvrages d'assainissement. Il faut plutôt absolument le reconstruire simplement parce que la ville a pris une grande dimension telle que la réhabilitation ne sera pas une solution. Il faut plutôt reconstruire au regard de ce qu'est la ville de Kinshasa aujourd'hui, une ville qui a pris beaucoup d'expansion.
Moi, je pense qu'il faut faire trois choses.
Oui.
Il faut faire le trois. Il faut réhabiliter, il faut reconstruire et construire. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez de nouveaux quartiers où vous n'avez même pas des ouvrages d'assainissement par rapport dans cette ville. Mais vous avez un quartier comme la commune de la Gourmet où vous avez des ouvrages d'assainissement. Donc, l'ensemble, disons, ces ouvrages qui, à certains endroits, sont non fonctionnels parce que complètement bouchés. Dans la commune de la Gombe, vous avez un réseau de boues qui existe et qui n'est pas fonctionnel. Là, il faut absolument réhabiliter ces réseaux qui existent et les rendre fonctionnels. Et vous prenez certaines communes périphériques où vous n'avez même pas des ouvrages qui existent. Vous devez construire des nouveaux ouvrages pour que ces ouvrages-là prennent en charge les eaux pluviales et utilisées. Mais vous avez d'autres communes où certains... je vais prendre un exemple par hasard. Vous imaginez le boulevard du Mont-Maurice limité, il n'y avait pas d'ouvrage d'assainissement, il n'y avait pas de caniveau. Quand on a fait l'élargissement du boulevard Le Mont-Ba, on a construit les caniveaux sur le boulevard Le Mont-Ba. Les caniveaux qui partent de l'échangeur de limité jusqu'au niveau de la première limité. Il y a alors un apport supplémentaire de eaux pluviales sur la rivière Calamon qui passe juste un peu. Non, non. Comment on appelle ça? La rivière Pouna, pardon. Alors, ce qui fait qu'au niveau de cette rivière Founa, il y a eu un apport des eaux supplémentaires, alors que la rivière Founa elle-même n'a pas fait l'objet des travaux, soit le tirage approfondi, soit la construction de mille des berges de la rivière, pour protéger, pour que la section de cette rivière soit constante. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans nos villes, et il est vrai que ça va nécessiter beaucoup de moyens. Mais j'insiste sur le fait que si on met de la volonté, on peut y parvenir.
Voilà, avec la volonté, on peut y parvenir. On va poursuivre avec Rugan Moubaké Kitima, qui nous appelle de Kisangani, Maître Mbokolo Edmond, qui est à Mbandaka. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix, vous suivez votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons de comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie. Si vous êtes intéressé, vous voulez réagir, n'hésitez pas, écrivez à service@radiocapi.net ou bien postez vos réactions sur la page Facebook au Capi Service. Voilà, on va poursuivre avec Rigan Moubaké Kitima qui nous appelle de Kisangani. Bonjour Rigan.
Bonjour monsieur les journalistes.
On vous écoute, votre question ou votre préoccupation.
Merci beaucoup de nous avoir associés dans le débat du jour. Bonjour également à monsieur l'invité. Ce que nous pouvons vite apporter comme, comme contribution à ce sujet ou à la thématique du jour n'est celle qui ressemble à ce que nous vivons même. Prenons le cas d'ici chez nous à Kisangani. C'est là que vous trouverez certaines canalisations où au lieu que la population se mette à les entretenir, la population elle-même s'en fout. Et puis les lignes de canalisation sont toutes débouchées. Ce qui fait que de nombreuses villes chez nous ici non urbanisées sont au pire de la situation. Il serait même pertinent de veiller sur l'entourage avant de se construire une maison, sinon le même fléau reviendra toujours. Il y a lié également d'ajouter un autre aspect sur le manque de canalisation, comme je le disais déjà dès l'entame, un facteur qui favorise à grande échelle la calamité d'innombrables inondations en RDC. À la population de veiller sur sa tâche, il y a également à l'État de mettre sous surveillance toutes les différentes couches sociales qui s'en foutent de la situation.
Merci Rugen Moubaké Kitima d'avoir appelé de Kisangani en Mbandaka. Maître Mbokoledmo est en ligne. Bonjour Maître Mbokoledmo.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour également Alain. Merci beaucoup pour nous avoir associés à cette thématique. Je crois que le problème d'inondation, c'est un problème qui est un fait constatable dans la société. J'ai fait un petit détour dans les grands équateurs. Vous allez constater que dans la plupart de nos provinces du grand équateur, par exemple le Sud-Obang, la Mongala, même chez nous à l'Équateur, c'est les problèmes d'abord, c'est le problème de l'urbanisation des villes. Nos villes, les avenues, les grandes artères ne sont pas bien urbanisées. Et puis, il y a un problème de canalisation d'eau. Donc, il n'y a pas de caniveau. J'étais à Guémena, j'ai trouvé, il n'y a même pas. 80% de la ville, il n'y a pas de caniveau. À Lissala, par exemple, j'ai trouvé toute une partie de la ville de Lissala qui est emportée par les érosions, par exemple. Voilà. Donc ici, le problème pour résoudre ces problèmes, d'abord, dans un premier temps, c'est l'État, à travers le ministère de l'Urbanisation, qui doit faire son travail. Et puis, l'État doit pouvoir créer des caniveaux dans toutes les avenues, même le ruel, le petit ruel, on doit avoir des canalisations d'eau. Et puis, un autre problème, la population doit éviter de pouvoir construire là où l'État a prévu des endroits où l'eau doit passer en fait d'être évacué, par exemple dans les rivières ou dans le fleuve. Un autre problème, c'est au niveau du ministère des Affaires foncières, parce que nous vivons, nous constatons ces problèmes où les conservateurs des titres immobiliers se permettent de vendre aux citoyens les endroits prévus pour que l'eau soit canalisée ou soit évacuée vers le rivière ou le fleuve, et ainsi de suite. Voilà. Donc ces problèmes-là, si ces problèmes sont respectés, ces différentes parties sont respectées, nous ne pouvons pas vraiment avoir un problème d'inondation. Même chez nous, en Bandaka, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui construisent des maisons juste aux abords du fleuve. Et lorsqu'il y a le délice, oui, il y a des poussées d'eau et ça permet à ce qu'il y ait une inondation et ça crée des problèmes. Voilà. Donc c'est un peu ça ma conclusion. Donc l'État doit avoir cette politique de créer des caniveaux ainsi que d'avoir une politique de canalisation d'eau afin de pouvoir pallier à ces problèmes d'érosion.
Merci Maître Mbokoledmo. Depuis Mbandaka, à Kanango Kassot Central, Christian Kaleke est Christian Kaleka, voilà, est en ligne. Bonjour Christian.
Bonjour la Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs, auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute Christian, votre question.
Je pense que pour maîtriser cette situation, la population congolaise devait d'abord avoir la culture d'acheter des citernes pour un peu recevoir tout eau qui provient un peu dans le sud de Tor. Alors, deuxièmement aussi, il devait d'abord avoir aussi la culture de canaliser de l'eau afin que cette eau-ci ne puisse pas vraiment se canaliser peut-être dans des rues et ça peut créer aussi quelques ravins. Et quand on canalise cette eau, on dirige vers petite, par exemple, une petite rivière. Et toute puissance que de l'eau apporte là, ça part jusqu'à la rivière. Ça sera au moins un peu une bonne chose. Vous voyez, si au Kassai Central, beaucoup de gens ne veulent pas vraiment acheter des terres, ne veulent pas canaliser de l'eau. Et si vous voyez dans des riz, il y a trop de l'eau scagnante qui va entraîner aussi dans le futur le ravin. Et le ravin aussi qui va aussi beaucoup se développer. Si vous voyez, si nous sommes victimes de ça ici au Kassai Central, M. Janvier.
Merci Christian Kaleka d'avoir appelé du Kananga au Kassai Central. On retrouve notre invité Michel Ouyumbu. Vous avez suivi les différents intervenants. En tout cas, on insiste sur le problème de canalisation, sur le problème de caniveau. Il y a de cités où il n'y a même pas de canalisation, il n'y a pas de caniveau. Lorsqu'il y a des fortes pluies, et il y a justement des inondations qui peuvent survenir de suite au manque de canalisation, mais également un autre aspect, il y a des endroits où il y a des canalisations, des caniveaux, mais qui sont mal entretenus. Comment vous réagissez par rapport à tout cela, ingénieur Michel Ouyumbu?
Le constat est tout à fait vrai, M. Marcel. Le constat est le même dans toute ma ville, nous avons le même problème. Et de ce constat-là se dégage. Et le fait que c'est l'État qui doit être en avant-place pour essayer de définir des politiques et qui pourra bien pouvoir doter nos villes des infrastructures d'assainissement viable, des infrastructures d'assainissement qui seront construites, qui doivent être entretenues, remplir correctement la fonction pour laquelle ces infrastructures seront construites. Donc il se dégage nettement une grande responsabilité du pouvoir public pour résoudre les différents problèmes que nous avons dans la ville. Mais au niveau de la population aussi, c'est malheureusement un constat sur le fait que la population se débrouille avec les déchets et sans débarrasse n'importe où, se débrouille pour avoir un toit et construire n'importe comment. Mais là, en amont, la responsabilité de l'État est encore établie parce que ce sont des politiques de production de logements sociaux, des politiques de salubrité de l'environnement qui vont nous aider évidemment à vider l'ensemble des problèmes que nous avons dans nos villes. Mais je voudrais insister sur un autre aspect, c'est l'aspect de la décentralisation. Vous savez, la difficulté que nous avons, c'est que nous avons une loi sur la décentralisation, mais qui n'est pas véritablement appliquée. Parce que vous allez vous rendre compte quels sont les moyens que l'autorité administrative qui est à l'Issala a pour faire face aux problèmes qui se posent exactement à l'Issala. Nous le savons très bien. Il n'a pas de moyens. Il ne saura pas lui seul venir et faire face aux différents problèmes qui se posent dans sa vie. Que ce soit les inondations, que ce soit les érosions, comme on l'a subi tout à l'heure, tout dépend soit du gouvernement central, soit du gouvernement provincial. Il y a moyen d'essayer de faire appliquer les différentes lois que nous avons sur la décentralisation pour responsabiliser beaucoup plus les autorités administratives à la base. Comme ça, il y aura moyen de surveiller beaucoup plus efficacement l'ensemble des problèmes. Et avec des moyens qu'ils auront, ces autorités, elles pourront alors faire face aux différents problèmes. Donc, même pour la ville de Kinshasa, M. Macron, vous avez 12 millions d'habitants, vous avez un gouverneur qui est l'autorité administrative, qui est l'autorité politique. Moi, je pense que cette façon de faire les choses lui donne beaucoup plus du travail. La ville de Kinshasa devait avoir soit un maire de la ville, soit plusieurs maires de la ville. Ma proposition dans le sens où, par exemple, les différents districts que nous avons à Kinshasa, que ce soit Lukunga, Funda, Changi et Mohamba, que ces districts-là soient dotés d'un maire. À la tête de ces districts, vous avez un maire pour chaque district, de manière à ce que l'autorité urbaine, qui est le gouverneur, lui ne s'occupe que des affaires politique, vous avez les aspects administratifs, les aspects techniques et aussi bien que les aspects politiques entre les mains d'une seule autorité pour gérer 12 millions d'habitants. C'est quand même costaud. C'est quand même beaucoup plus de responsabilités. On ne doit pas attendre le gouverneur de la ville de Kinshasa pour aller curer les caniveaux, par exemple, à Mongafula, à Kinshasa et partout ailleurs. Mais si ces autorités-là, des entités décentralisées, des différentes communes, dès qu'il devait avoir des budgets pour faire face aux problèmes, même des budgets d'investissement.
Cela est possible. C'est ce qui a fait développer d'autres pays partout dans le monde. Voilà. Nous avons une gestion tellement centralisée qui ne permet pas en fait à résoudre, à faire face à beaucoup de problèmes que nous avons dans nos villes.
Merci beaucoup, ingénieur Michel Oyumbu. Merci d'avoir accepté d'être de notre pour aborder cette question sur comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie. Nous rappelons que vous êtes président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro.
Merci beaucoup, monsieur Massé.
Voilà, fidèle auditeur de Radio Cap, se retrouve toujours avec ce même sujet dans la deuxième partie de
Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix, et bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien. Au Capi Service, nous vous parlons de comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie. Nous allons donc poursuivre avec ce sujet avec notre deuxième invité, René Ngongo, qui est vice-président de l'Organisation congolaise des écologistes de la nature océan, sigle René Ngongo. Bonjour.
Bonjour.
C'est Marcel. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette question sur comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie. Vous êtes vice-président de l'Organisation congolaise des écologistes amis de la nature. Expliquez-nous un peu d'abord, c'est quoi cette organisation?
C'est une des vieilles organisations environnementales au Congo qui regroupe non seulement les amis de la nature, mais aussi les écologistes qui ont cette formation-là. On a fait cette symbiose depuis les années 92 pour regrouper les amis de la nature et les écologistes formés et sensibilisés sur les questions environnementales. Au départ, focalisés sur les questions forestières, mais après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes, notamment la question des inondations et la gestion des ressources naturelles en général. Et c'est comme ça qu'on a fait tous les plaidoyers. Nous travaillons essentiellement sur les questions de climat et de gestion des ressources naturelles.
Voilà, nous parlons justement des inondations. On le sait dans plusieurs ménages, en tout cas dans les ménages de plusieurs quartiers de Kinshasa, il y a souvent des problèmes d'inondation en saison de pluie. Cette situation ne manque pas de causer des dégâts matériels qui rendent parfois difficile la circulation des personnes de leurs biens sur certaines artères principales. La situation est identique dans les autres provinces de la RDC où l'on enregistre parfois des cas de décès. Ces inondations, selon certaines personnes, seraient dû au manque de curage de rivières et autres canalisations dans les zones urbaines du pays. Alors, que pensez-vous qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison des pluies? Et bien entendu, vous êtes écologiste, profitez également, aider également à protéger la nature, parce qu'on sait que les inondations ont aussi un effet néfaste sur la nature, sur l'environnement.
Effectivement, il y a chaque fois en saison des pluies, nous assistons à des phénomènes calamiteuses avec des inondations. Au-delà de Kinshasa, il y a des villes qui sont connues, notamment Bukavu. Et même Lomami, je crois que vous avez suivi tous ces déplacés qu'on a eu à Bukama. La ville d'Ouvira, à chaque période d'inondation, il y a des catastrophes avec beaucoup de morts et il y a même risque, comme vous le savez, de délocaliser cette ville. Ce sont des phénomènes qui sont des conséquences d'abord du changement climatique avec toutes ces perturbations que nous avons déjà eu à souligner sur votre radio. Mais aussi, il y a l'impact que vous avez souligné tout à l'heure, de la mauvaise gestion des déchets, des canalisations, mais aussi des constructions anarchiques. Dans les quartiers, malheureusement, qui sont affectés, c'est des quartiers qui ne sont pas appropriés pour l'urbanisation. Donc, c'est des zones à haut risque qui ne devaient pas être occupées. C'est ce qui explique que dans ces quartiers, il y a beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Évidemment, vous avez souligné les conséquences avec des habitations qui sont immergées. On a des avenues qui deviennent pratiquement des lacs artificiels. Des conséquences sur les ponts, vous avez parlé des routes qui sont coupées. et certaines zones, on voit l'érosion qui s'accélère. Donc, les phénomènes s'accentuent de plus en plus avec les changements climatiques, mais l'État, surtout les ministères de l'urbanisme, a un travail à faire par rapport à la délocalisation urgente de ces zones à haut risque, sinon on va continuer à déplorer les morts.
Mais qu'est-ce qui fait que la population, même si elle est informée du danger de construire en certains endroits, mais la population prend tout de même le risque?
Oui, c'est effectivement un problème de poussée démographique. Hein. Vous avez toutes les conditions qui se détériorent en milieu rural, aggravées par les questions d'insécurité à l'est, spécialement. Ça fait que les gens viennent en ville et occupent des zones qui ne sont pas appropriées pour une construction de maisons. Et les problèmes aussi, vous avez abordé la question des déchets. Tous ces déchets sont déversés dans les canalisations. Ça fait que beaucoup de canalisations sont bouchées. Il y a eu des constructions même sur des égouts. Donc, quand on parle de construction anarchique, c'est aussi des constructions qui bloquent l'acheminement des eaux vers les rivières. Et à ce moment-là, lorsque l'eau n'a pas son passage, n'a pas de passage, il crée les passages et ça crée ces conséquences que malheureusement nous déplorons et qui s'accompagnent des décès et de plus en plus de morts lorsqu'il y a des pluies qui s'annoncent comme en cette saison.
C'est vrai que, comme l'ont évoqué certains auditeurs dans la première partie par rapport à ces sujets, que l'État a également sa part de responsabilité, simplement parce que l'État congolais laisse des gens construire n'importe où, n'importe comment. Et il y a des constructions anarchiques presque dans toutes les grandes villes du pays. Mais à votre niveau de l'Organisation congolaise des écologistes amis de la nature, est-ce que vous essayez de sensibiliser de fois la population par rapport à tout ce qui est lié au problème de construction anarchique?
Nous faisons un grand travail de sensibilisation parce que je n'ai pas ajouté un autre élément capital, surtout dans des villes comme Ouvira, c'est le déboisement des bassins versants. Vous voyez les chaînes de Mitumba, là, les monts Mitumba, qui surplombent la ville d'Ouvira, et dans beaucoup de villes, ça se passe comme ça. Et on a pendant longtemps coupé les arbres. Et donc, avec les déboisements, il n'y a rien qui retient la descente de ces eaux. Et à ce moment-là, ça accélère. Et imaginez toute la pression qui descend de ces montagnes. Et la conséquence, c'est que les villes sont inondées avec des catastrophes que nous déplorons. Donc, nous avons fait ce travail de sensibilisation. Et lorsqu'il y a déboisement, une des solutions, il faut reboiser. Mais en même temps, il y a un travail qui doit se faire vers l'administration pour que on puisse repenser au plan d'urbanisation de nos villes. Il y ait suffisamment de canalisations, regarder nos routes, même ici, en plein centre-ville, lorsqu'il pleut, pratiquement, il faut des véhicules amphibies pour pouvoir circuler dans la ville. On voit les pirogues, c'est fréquent. Dans certaines avenues, on trouve même du poisson sur nos avenues parce que l'eau n'a pas trouvé d'autre place que de circuler dans l'eau. Donc il est important de revoir notre plan d'urbanisation, qu'on puisse, évidemment, ces canalisations sont vétustes. Hein, pour Kinshasa, la plupart datent de 1950. Pour une ville qui, à l'époque, n'avait pas 1 million d'habitants, c'était autour de 500 millions d'habitants. Aujourd'hui, on parle de 12 millions d'habitants. Donc, vous voyez toutes ces pressions démographiques et qui, à la longue, avec les canalisations qui sont bouchées, nos cours d'eau saturés par les déchets plastiques, les épaves de véhicules, les troncs d'arbres, tout ça, ça fait que, à la moindre pluie, il y a les niveaux d'eau qui monte, et à ce moment-là, l'eau circule dans les avenues. Il y a un travail vraiment d'aménagement, et même pour Kinshasa, il faut qu'on pense de plus en plus au déplacement de la ville vers Maluku, qui a encore beaucoup d'espace.
René Ngongo, revient à vous, le temps pour nous d'accorder la parole à Ritier Wamenga qui nous appelle de Kisangani. Il y a également Clément Pagna qui est à Kananga, au Kasaï central. Si vous êtes aussi intéressé par ce sujet, vous venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Nous parlons de comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie avec notre invité René Ngongo. Vous pouvez nous écrire à l'adresse service@radiocapi.net ou poster vos réactions sur la page Facebook Okapi Service.
Radio Okapi, Okapi. Okapi Service avec Marcel Ngombombala.
Okapi. Héritier Wamenga, vous appelez de Kisangani. Bonjour Héritier.
Oui, bonjour messieurs les journalistes.
Votre question Héritier sur ce sujet, sur la prévention, comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie?
À Kisangani, la situation d'inondation pendant cette période de la montée des eaux reste préoccupante car plusieurs ménages sont toutefois obligés de passer la nuit à ciel ouvert en abandonnant leur domicile. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Ce sont des constructions anarchiques sur et à côté de caniveau, compliquant ainsi la canalisation d'eau à chaque fois qu'il pleut. Ajouté à cela, il y a l'amateurisme des sociétés qui nous construisent la voirie urbaine. On ne respecte pas les anciennes canalisations. On bloque même les passages d'eau à créer des bordures nouvelles, de nouvelles bordures irrationnellement au vu et au su de tout le monde. Comment prendre solution à ce problème? Il faut réglementer sans condition les secteurs cadastrales et aussi procéder au bon choix lors de la sélection du marché de construction. Pourquoi je parle de bon choix de sélection du marché de construction? C'est parce que je prends l'exemple de l'époque du gouverneur John Tokole, qui est maintenant député national. Il a construit les tronçons à la de rond-point du canot jusqu'à la séquisse, les jours où on avait mis le goudron, et après avoir construit le ce tronçon, l'eau ne pouvait plus couler dans des caniveaux. C'est-à-dire, l'entreprise qui avait gagné le marché n'avait pas pris soin de canaliser les eaux qui pouvaient aller suivre les anciennes canalisations. Voilà un peu ce que je voulais contribuer à ce niveau du débat.
Merci Héritier Wamenga depuis Kisangani à Kananga au Kasaï central. Clément Pagna est en ligne. Bonjour Clément.
Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour Capi Service.
On vous écoute Clément.
Oui, normalement les préventions qui posent plutôt à un niveau de l'inondation qui pose des cas dans la province de Kinshasa et partout ailleurs, nous avons découvert bel et bien que la grande difficulté que rencontre notre territoire, si national que provincial, que je peux dire, est que beaucoup plus de canaux qui avaient été construits à l'intérieur de la conduite d'eau a été tout débouché et l'utilisation était devenue très compliquée, de voir que quand on parle même des érosions dans une des villes dans le territoire national congolais, tout ceci a été causé que par les inondations. Dès que les canaux de récolte se bouchent et qu'il n'y a pas de débouchage, cette eau-là manque par où aller. Ça va chercher des problèmes, ça crée des puits de soie et on appelle à ce moment-là, on a des ravins, on a des érosions et ça cause des difficultés. Moi-même, je suis victime d'un accident à un certain moment sur la ville de Kananga, ici au niveau de l'hygiène, un ravin de danger est sur place. On a mis des bornes pour intercaler l'eau qui coulait, qui venait de la voie publique, de la voie que j'appellerais route Lulandou, qu'on peut appeler ici. Et l'eau va se centraliser à une certaine concentration, comme salité, que ça s'introduise dans ces ravins, ça va se concentrer à cet endroit-là, suivant le mur qui avait été, n'est-ce pas, interrompu sur la voie publique. Et j'ai quitté de la ville pour rejoindre ma commune où je me retrouve. Sur la moto, je m'étais retrouvé devant un fleuve Congo où je ne pouvais pas m'en sortir. Ça m'a causé une des difficultés. Voilà au moins une des grandes difficultés autres. Quand on parle des inondations, il faut d'abord chercher à donc donner la voie à suivre, donner cette voie à qui à l'eau. Pas une voie à suivre, n'est pas orienté. C'est une des difficultés. L'inondation doit toujours s'effectuer. Et en plus, en matière de plutôt environnemental, j'en avais bien commenté pour dire quand on veut à ce que l'inondation n'ait pas lieu, qu'il n'ait pas de trouages de l'environnement, il faut ouvrir une grande voie pour équilibrer à ce que l'eau qui va couler, donc se répapie. Dès que vous donnez une petite voie, donc vous donnez la chance à l'eau d'aller donc se bloquer et pour ne pas donner la chance de faire son écoulement. À ce moment-là, il y a des risques, il y a autrefois, ça va taper à des maisons, ça va taper autrefois. À des puits creusés dans des parcelles, ça crée des érosions, ça fait couler des maisons. Autrefois, il y a même des enfants, plutôt d'autres personnes qui sont mortes ici à Kananga à cause des inondations, à cause de mauvaises orientations et aussi des constructions anarchiques qui se font de temps en temps. On ne peut pas construire, vous verrez déjà aller construire. Ils ne font pas même l'écologie de ces milieux-là pour savoir que, quelles sont les difficultés qui peuvent nous revenir à un certain moment. Ils prennent en danger, ils mettent plutôt en danger leur vie sans tenir compte de l'étude de l'environnement. Voilà où est-ce que je veux compléter, monsieur le journaliste.
Merci Clément Pagna depuis Kananga au Kasaï Central. On revient ici à Kinshasa, Théophile Loka qui est en ligne. Théophile, vous êtes en ligne ici à Kinshasa. Bonjour
ouais.
Théophile.
Ouais, bonjour Radio Kapi et bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute Théophile.
Ouais, à mon avis, pour prévenir les inondations dans certains quartiers de la ville de Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC, les techniques que les comités peuvent utiliser pour stopper l'avancée de ces têtes d'inondation qui menacent les maisons d'habitation, les ports et les routes, et ce sont les canalisations d'eau usées, vannées et d'eau pluie, ensuite les gambions. La situation s'amplifie à chaque saison de pluie parce que n'est rien fait pour arrêter efficacement ces inondations. Le gouvernement doit voir ce problème et doit vraiment assurer la population qui s'en. Et j'ai aussi quelques préoccupations. J'aimerais savoir quels sont les facteurs à la base des proliférations de ces têtes d'inondation. Quels sont les moyens efficaces de lutter contre ces ravins qui doit être l'apport du pouvoir public et de la communauté locale dans la lutte contre ces ravins qui ne cessent de causer des dégâts matériels importants et parfois même des pertes aux vies humaines. Hein? S'il vous plaît, si j'aimerais savoir, c'est ça, les problèmes en question là qui causent les inondations. Ah, pourquoi le gouvernement laisse la population souffrir comme ça? Pourquoi? Merci beaucoup.
Merci Théophile Okake, vous avez appelé, merci d'avoir appelé de Kinshasa. John Odiane, vous êtes à Isiro. Bonjour John.
Bonjour cher J. Cher Jody, bonjour à l'invité aussi, je m'excuse.
Voilà, c'est Marcel qui est à l'antenne. On vous écoute, John Odiane. Votre question par rapport à ces sujets sur comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie.
Oui, cher Marcel, il faut savoir que le problème des inondations, c'est vraiment à travers toute l'étendue du pays. C'est très grave. Vous savez que non, c'est là les facteurs qui causent des problèmes pareils. Il faut d'abord voir aussi le plan global. Il y a d'abord le système politique de rivalisation. Est-ce que c'est respecté dans notre pays? Il faut voir la politique d'assainissement du milieu. Si vous voyez, par exemple, ici, il n'y a même pas de politique par rapport à ça. Il y a des gens qui vendent des terrains, il y a des gens qui ne sont pas compétents qui vendent des terrains, sans même respecter, il y a des constructions anarchiques tout près de la route, tout près de la rivière. Vraiment, c'est un problème général. Il faut que on puisse quand même réfléchir sur ça parce qu'il y a des bouteilles aux jets partout. Tout ça, c'est à cause des inondations. Il faut qu'on puisse quand même définir la politique d'assainissement du milieu. Comment on peut garder des plastiques? Est-ce qu'il y a des politiques pour ça? Comment tout ça, il faut que le gouvernement puisse quand même passer à ça parce que vous voyez que non. Il y a même des gens qui distribuent des maisons qui n'ont même pas compétence. Il y a des spoliations partout. Alors à ce niveau-là, il faut quand même qu'on puisse réfléchir. On peut définir comment on peut assainir le milieu. Parce que si on parle seulement de ça, ça peut pourtant définir la politique globale du pays. Ça ne peut pas aboutir. Il y a des canaux partout.
Puis on revient à vous, à René Ngongo. Vous avez suivi c'est les constructions anarchiques, le manque de curage de caniveaux, le manque de vraies politiques d'urbanisation de nos villes et les problèmes également de plan d'assainissement des villes, c'est l'ensemble de ces problèmes que les différents intervenants ont évoqués, qu'il faut trouver solution à cela. Et c'est d'après eux, c'est ce qui pourra aider à prévenir les inondations. René Ngongo.
En tout cas, vous avez vu que c'est un problème tout à fait national, parce que quand vous avez fait la ronde des provinces, les mêmes questions reviennent. Hein, les constructions anarchiques, les non-respect des normes. Quand les gens habitent autour d'une rivière, autour d'un lac, je crois qu'il y a une distance, je crois qu'il y a un minimum de 50 mètres qu'il faut respecter. Parce que l'eau, il y a toujours tendance au débordement et il y a des mesures. Aujourd'hui, quand vous voyez autour de nos rivières ici, on ne respecte pas ces normes environnementales. Et quand on fait l'urbanisation, il y a ce que nous, comme écologistes, nous exigeons, ce sont les études d'impact environnemental et même social. Hein? Est-ce qu'on tient compte de la composition du sol? Vous savez que même à Kinshasa et même dans beaucoup de villes, déjà à l'époque coloniale, il y a des quartiers qui n'étaient pas habitables. Aujourd'hui, toutes ces zones marécagées sont habitées et quand il y a inondation, ce sont ces zones-là qui sont affectées beaucoup plus que les autres. La gestion des déchets, beaucoup d'intervenants sont revenus là-dessus, c'est un problème. Aujourd'hui, on parle de Kinbopeto, mais on devrait parler de Congo Bopeto, hein, pour essayer d'assainir les milieux urbains. Mais il y a un élément sur lequel Marcel n'a pas beaucoup abordé, c'est les mesures d'alerte. On peut déjà prévenir, parce que votre émission parle de la prévention.
Oui.
La meilleure prévention, ce sont les alertes. Nous avons aujourd'hui Metelsat, il y a aussi l'INERA, il y a un centre de recherche CREBAC affecté à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa, qui sont susceptibles déjà d'alerter sur les éventuelles inondations. Le pays manque un plan national de gestion des risques d'inondation. Il est important que ces plans-là soient mis à jour pour que on puisse alerter suffisamment et on peut éviter ces catastrophes qui sont déplorées sur l'ensemble de notre pays. Donc voilà, à mon avis, des éléments. Évidemment, quand on parle de canalisation, la meilleure solution, il faut curer les canalisations, il faut curer les rivières. Nos rivières ici à Kinshasa peuvent être des moyens même de communication entre les communes. Ça va désengorger nos routes ici avec les bouchons de tous les jours. Donc il faut curer ces caniveaux et à ce moment-là agrandir les canalisations. Toutes ces maisons qui sont construites sur les égouts là, il faut un moment que l'État puisse prendre ses responsabilités, délocaliser les occupants de ces maisons pour que l'eau puisse aller directement vers le fleuve, vers l'océan, évidemment après le nettoyage de tous les déchets plastiques qui sont une catastrophe dans cette ville.
Et mais René Ngongo, vous avez également suivi cette préoccupation de Théophile Lokake qui a appelé de Kinshasa, qui a cherché à savoir, parce que bien souvent, lorsque il y a des cas d'inondation, on vient, on constate les dégâts et puis on prend des mesures, mais finalement, rien n'est fait sur le terrain pour prévenir ces inondations en saison de pluie. Alors, lui, il a cherché à savoir quel doit être exactement le rôle de l'État congolais pour prévenir ces inondations en saison de pluie, mais aussi le rôle des communautés locales.
D'abord, les communautés doivent bien gérer leur environnement. Parce que quand nous jetons nos déchets dans les canalisations, nous sommes responsables des inondations futures. Parce que l'eau cherche absolument un passage et à la fin, elle nous revient si on ne lui a pas donné l'occasion de couler vers les rivières. Donc, au niveau des communautés, il y a le respect des caniveaux. Et il ne faut pas construire sur ces caniveaux et bloquer les passages. Au niveau de l'État, je pense que tout à l'heure, j'étais en train d'aborder la question d'un plan national de gestion des risques d'inondation. Il y a des zones qui ne doivent pas être habitables. Il faut absolument délocaliser ces populations pour trouver c'est pas l'espace qui manque dans notre ville, et même sur l'ensemble de notre pays, pour que on puisse faire un plan d'urbanisation qui tienne compte de ces risques-là. Donc, c'est à ce niveau-là, le respect des normes, ceux qui sont en train de donner des autorisations anarchiques, il est important de pouvoir les sanctionner, parce que nous sommes en train d'aller vers un état de droit. Voilà les sanctions qui doivent intervenir à ce niveau-là. Mais puisque nous parlons des risques et des catastrophes, je pense qu'il y a des chercheurs qui sont en train de travailler. Je pense à l'outil de gestion intégrée des ressources en eau, hein, qui est un outil scientifique d'aide à la prise de décision qui doit aider les décideurs sur base des données disponibles, parce que nos chercheurs, ils ont des données qui peuvent être capitalisées par les décideurs. À ce moment-là, cet outil de gestion des ressources en eau, lorsqu'il sera bien capitalisé, peut nous aider non seulement à bien gérer notre ressource, hein, une ressource utile pour nous, mais aussi pour l'humanité, mais ça peut prévenir les calamités que nous sommes en train de déplorer, cher ami.
Alors, puisque vous êtes de l'organisation congolaise des écologistes amis de la nature, dites-nous un peu les inondations, lorsqu'elles reviennent, de façon récurrente, c'est leur impact sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut craindre?
En fait, le problème qui est là, de plus en plus, vous vous rappelez qu'on avait pratiquement des cycles de 10 ans d'inondation. Hein, c'était presque un phénomène naturel. Mais aujourd'hui, avec les réchauffements de la planète, parce que nous parlons changement de climatique, c'est parce que l'homme est en partie responsable des émissions, ces émissions qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre qui produisent les réchauffements de la planète. À ce moment-là, ça crée des perturbations. Ça crée ce que les Français commencent à appeler un dérèglement climatique. Et on commence à assister à des phénomènes de plus en plus extrêmes, dont les inondations, qui reviennent régulièrement, et c'est normal que tous les auditeurs puissent s'en inquiéter. Donc, il y a cette question d'inondation à cause des phénomènes climatiques extrêmes que nous sommes en train de vivre. Ici, c'est encore atténué au niveau de l'Équateur. Mais vous suivez régulièrement dans les autres pays comment ces phénomènes font des dégâts qui nécessitent des milliards de dollars pour rétablir ces communautés avec des tsunamis, avec toutes ces catastrophes qui reviennent. Ici, ça devait être atténué, mais malheureusement, pour des raisons que nous venons d'énumérer, notamment les constructions anarchiques, les manques d'assainissement, la mauvaise gestion ou l'absence de gestion de nos déchets, voilà, combiné au changement climatique, ça produit un cocktail qui est tout à fait dangereux pour nos communautés.
Grecia Bakajika nous appelle de Kisangani. Nestor Mwepu est à Kananga. Grecia Bakajika, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
On vous écoute, Grecia Bakajika.
Oui. Ici, dans la ville de Kisangani, par rapport aux inondations, les inondations sont dues au manque d'agressions.
Grecia, essayez de dynamiser à votre voix, on vous entend pas très très bien, essayez de parler un peu plus fort.
Ici à Kisangani, la ville de Kisangani, ici, les inondations sont dues au manque d'entretien des caniveaux. Certains caniveaux sont devenus des lieux de poubelles. Et aussi, cela est dit par des constructions de maisons dans des endroits non appropriés. Par exemple, dans une commune d'ici, il y a un quartier appelé Tokomeka. Certaines autorités avaient interdit à la population d'habiter cet endroit parce que c'était un espace marécageux. Mais aujourd'hui, cet endroit est déjà habité par un nombre de populations et ces habitats souffrent dans la pluie. Parfois, ils n'ont pas même de sortir pour se déplacer. Moi, je crois que la responsabilité de ces inondations est partagée entre la population et le service de l'État. Pour éviter le débordement de ces eaux de pluie, il faut qu'il y ait l'auto-prise en charge de l'environnement habité par la population avant que le service de l'État vienne faire courir. C'est-à-dire la population doit faire l'entretien de son habitation. Et les services d'hygiène, d'environnement, d'urbanisme et d'habitat doivent mettre en rigueur leur travail. Ils ne doivent pas laisser la population construire n'importe où, parce que ces services sont aussi à la base de ces inondations. Voilà ce qui était ma contribution.
Merci, Gracia Bakajika, depuis Kisangani. Nestor Mwepu, vous êtes à Kananga. Bonjour, Nestor.
Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour à tous les nombreux auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Nestor.
Ah oui. D'emblée, j'avais constaté que les inondations sont dues vraiment au manque de canalisation d'eau. Vous voyez, dans notre pays, les eaux ne sont pas canalisées. Ils passent aussi sur certaines avenues jusqu'à entrer même dans certaines parcelles des personnes sans qu'il y ait quand même une moindre canalisation, soit d'une moindre mesure de canaliser un peu ces eaux. C'est ça un peu ce que nous assistons aujourd'hui. Et pour un peu pallier à ça, j'avais suggéré à ce que le gouvernement mette en place des moyens conséquents, donc des fonds nécessaires afin d'ériger des canaux partout là. Parce que les spécialistes de l'environnement nous disent que ce phénomène-là est dû au manque des canalisations d'eau. Alors le gouvernement devait faire à ce que l'eau puisse être canalisée. Et enfin, on va un peu lutter contre ça. Et aussi de deux, c'est une mesure que le gouvernement doit prendre de donner, d'attribuer des parcelles, des terrains aux gens. Et il faut chercher là où il n'y a pas une concentration d'eau. Parce que ces derniers temps, nous remarquons que le gouvernement se donne à donner des terrains partout. Et même là où il ne faut même pas construire, la population est en train de construire. Et si vous posez la question, qui vous a vendu cet espace, qui vous a vendu ce terrain, vous allez toujours vous rendre compte que c'est peut-être soit la mairie, soit la commune qui a attribué des titres parcellaires à cette personne-là, l'autorisant vraiment à construire ou bien à bâtir sa maison là-bas. Alors c'est ça un peu ma contribution par rapport au sujet du jour.
Merci Nestor Mwepu d'avoir appelé de Kananga. Akalemi Godefroy est en ligne. Bonjour Godefroy.
Bonjour messieurs les journalistes.
On vous écoute. C'est votre question par rapport à ces sujets sur comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie.
Oui, pour prévenir ces inondations par rapport, selon le calinisation de quoi de ces inondations, l'État doit prendre les choses en main par rapport à quoi? Par rapport à ces inondations plutôt, parce que la population est là, il manque de place. Alors, comme il manque toujours de place, ils vont faire quoi? Ils vont toujours faire des recours à des places qui sont inondées par rapport à ça. Alors, moi, je demanderais au l'État de faire donner, ou pas même donner, il peut faire recours à la population pour que la population ne puisse pas tomber dans de telles circonstances. Alors, pour que encore l'État doit recourir à la population pour que les hommes ne puissent pas encore tomber de ça. Alors moi je dirais que la population suivra doit faire aussi. Il faut la population qui soit d'abord vigilante à de telles, parce que ça retourne chaque année de telles inondations. Alors monsieur le journaliste, moi je demanderais seulement à l'État qui puisse vraiment faire tout un effort là à la population de ne pas encore tomber à de tels cas. Merci beaucoup.
Merci Godefroy. Depuis Kalemi, René Ngongo, comment vous réagissez à toutes ces interventions?
Merci Marcel. Vous voyez que toutes ces villes, j'ai eu l'occasion de visiter et même d'habiter pendant longtemps la ville de Kisangani.
René Ngongo, s'il vous plaît, il y avait un problème d'écoute hein, au début, juste après ma question.
J'ai dit,
vous voulez, oui.
J'ai dit que tous les amis qui sont intervenus reviennent sur ces questions des canalisations, la mauvaise gestion des déchets. Et quand on vous dit que le site s'appelle Tokomeka, je crois que c'est à Kisangani.
Oui.
Donc cette population, elle est consciente des risques probables en habitant ces zones, mais la population, face au désespoir, dit Tokomeka. On va essayer. Et c'est très dangereux en cette période où nous vivons des événements extrêmes. Donc ça va revenir. 10 ans après, c'était encore possible. Il y a quelques années, on avait ce cycle. Mais maintenant, c'est presque chaque année qu'on va vivre ces phénomènes. Et il est important que l'État prenne ses responsabilités pour délocaliser dans tous ces sites Tokomeka qu'on trouve pratiquement sur l'ensemble du pays. Il a bien dit que ce sont des zones marécageuses. Et quand on voit ces zones-là, on les retrouve même ici à Kinshasa. Tous nos amis sont revenus sur cette question-là. Donc, il est important, je pense que je peux résumer ce qu'ils ont dit, c'est des constructions anarchiques qui ne respectent pas les normes urbanistiques avec des problèmes de canalisation qui sont bouchés, l'extension anarchique des villes sans plan d'urbanisation et l'absence de toute gestion rationnelle des déchets. Donc, il est important que l'État puisse prendre ses responsabilités pour trouver des solutions idoines à ces préoccupations. Sinon, c'est des milliers de morts que nous allons toujours continuer à déplorer en saison de pluie.
Alors, il y a également une autre question, c'est la nature. C'est comment si aujourd'hui il faut construire une nouvelle ville, une nouvelle cité, et comment faire en sorte que l'environnement soit également protégé?
C'est ce que nous avons dit il y a quelques instants là. Il faudrait que tout projet d'urbanisation soit précédé d'une étude d'impact environnemental et social. Et c'est possible. On a vu des villes comme Dubaï qui sont nées dans un désert, évidemment avec beaucoup de moyens. C'est parce qu'il y a eu des études. Je prends la cité du fleuve parce que nous parlons de Kinshasa. Tout le monde a été content qu'il y ait une cité, mais aujourd'hui, lorsqu'il y a inondation, c'est parmi les zones les plus exposées, parce qu'il n'y a pas eu ce genre d'études d'impact environnemental et social. Vous savez, M. Marcel, c'est que la cité du fleuve est bâtie sur une zone de frayère. C'est là que les poissons se reproduisaient avant que la cité ne soit installée là-bas. Et on s'est plaint qu'il n'y a plus beaucoup de poissons à Kinshasa. C'est, voilà une des raisons. Si on avait fait ce genre d'études, on aurait certainement constaté que ce n'était pas l'endroit approprié. C'est vrai que ça s'appelle aussi Tokomeka. On va défier la nature, mais attention, la nature a une force que l'homme ne peut pas maîtriser. Lorsque vous la défiez, il y a des limites à ne pas dépasser. Et c'est ce qui se passe malheureusement lorsqu'on habite dans les cités qu'on appelle Tokomeka.
Voilà, c'est vraiment un danger, hein. Même ici à Kinshasa, c'est souvent le cas. Il y a des endroits marécageux, il y a des endroits où simplement il y a de risques de construire des habitations. Mais les gens, quand vous dites Tokomeka, c'est-à-dire ils acceptent des points le risque. Mais il y a ces côtés laxistes de l'État congolais. Lorsqu'il y a un endroit où il est interdit de construire, pourquoi l'État ne peut pas prendre de mesures drastiques par rapport à ceux qui s'y hasardent?
Je pense que c'est une question importante qu'on devra orienter vers les décideurs. Moi, je suis également au Conseil économique et social. Notre rôle, c'est d'apporter des avis consultatifs aux décideurs. Pour le moment, M. Marcel, nous sommes en train de finaliser un avis très important sur la gestion des déchets en milieu urbain. Ça pourrait, si on arrive à mettre en application cet avis du Conseil économique et social, ça pourra aider à diminuer les dégâts actuels sur la question des inondations, parce que il est vrai que maintenant nous faisons face à des phénomènes de plus en plus extrêmes
à cause, je le répète, des changements climatiques, mais nous devons aussi anticiper en aidant cette eau à s'écouler normalement vers les rivières. À ce moment-là, on doit éviter de considérer nos cours d'eau, nos caniveaux comme des poubelles à ciel ouvert.
Voilà, merci beaucoup René Ngongo d'avoir accepté notre invitation pour aborder cette question sur comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie. Nous rappelons que vous êtes vice-président de l'organisation congolaise des écologistes et amis de la nature océan sigle. Merci, on vous retrouve prochainement.
Merci beaucoup, Marcel.
Voilà, on va poursuivre avec toujours ces sujets sur comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie. Cette fois-ci avec un autre invité, c'est Fiston Ilangi. Il est urbaniste, il est en ligne. Fiston Ilangi, bonjour.
Bonjour Monsieur Martel, bonjour à tous nos auditeurs.
Voilà, merci de nous avoir rejoints sur dans ce numéro du magazine Okapi Service où on parle de comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie. Ça certainement, vous le savez, il y a dans plusieurs quartiers de Kinshasa des ménages qui sont exposés aux inondations en saison de pluie. Une situation qui ne manque pas de causer des dégâts matériels qui rendent parfois difficile la circulation des personnes et de leurs biens sur certaines artères principales. La situation est identique dans les autres provinces de la RDC où l'on enregistre et parfois des cas de décès. Ces inondations s'est réduit au manque de curage de rivières et d'autres canalisations dans les zones urbaines du pays. Alors, vous êtes urbaniste. Dites-nous quels sont en tout cas pour vous, les autres facteurs ou les facteurs à la base de ces inondations d'abord. Et ensuite, vous nous direz. Et comment faire pour éviter les débordements de toutes ces eaux de pluie?
Merci beaucoup, Monsieur Marcel. C'est une thématique qui est vraiment très, très intéressante. Vous savez, dans une ville, avant d'abord d'occuper, de rester dans une ville, si on fait un plan d'urbanisation d'une ville, on s'est dit, en amont, il faut procéder à l'assainissement de la trame. L'assainissement de la trame d'une ville, c'est-à-dire quoi? On viabilise les sites, on met des caniveaux, tuyauterie des eaux, la fenêtre, tout dedans. Alors, si on assainit la trame, okay, eh bien, vous allez voir que ça va nous éviter d'avoir cette problématique d'inondation ainsi de suite. Mais regardez nos villes aujourd'hui. Avec le Belge, parce que tout ce que nous avions comme ville aujourd'hui, nous avons légué cela auprès de Belges. Vous êtes sans ignorer que avec nous-mêmes, ici, on voulait avoir nos propres villes avec cette histoire de démembrement ainsi de suite. Mais regardez nos villes, comment est-ce qu'on a eu à concevoir cela? Donc, les villes que nous avions aujourd'hui, ce sont des villes léguées par le Belge. Avec le Belge, regardez par exemple ici à Kinshasa, cité Matete, commune de Bandalungwa, commune de Lemba, vous allez trouver que l'assainissement de la trame était bien fait en amont. On a mis des caniveaux, on a dimensionné cela en fonction des débits des eaux à évacuer. Et puis, il y a un principe en matière d'urbanisme, on parle des COS, les coefficients d'occupation au sol. Lorsqu'on dimensionne les caniveaux, on fait cela par rapport à la quantité d'eau qu'on doit évacuer. On calcule des bons. On s'est dit par exemple que dans telle commune, le coefficient d'occupation du sol ne doit pas dépasser 40%. Vous voyez? Et on calcule le débit en fonction de cela. Mais aujourd'hui, avec cette histoire de besoin à logement, il y a un oncle qui vient au village, il construit sa petite maison, il y a un neveu qui construit. Du coup, les coefficients d'occupation au sol passent de 40% à 85%, à 100%, à 90%. Et les parcelles sont encombrées. C'est pour dire que les eaux qui vont tomber dans cette parcelle vont aller directement dans les caniveaux. Or, on avait laissé, on se disait, non, il faut occuper 40% de votre parcelle parce que les 60% restants, ça va rester comme tel et que lorsqu'il y aura la pluie, ça permettra à ce que l'eau puisse s'infiltrer dans votre parcelle avant de déverser une autre quantité dans les caniveaux. Mais lorsque vous occupez totalement la parcelle, il y a d'autres personnes qui mettent même des bétons ainsi de suite. Donc, du coup, la parcelle n'arrive pas à infiltrer des eaux de pluie sur place. Toutes ces eaux sont sorties dans les caniveaux. Or, les calculs, les dimensionnements de ces caniveaux, on n'avait pas pris en compte cet aspect des choses. Ça, c'est un élément. De deux,
Dans d'autres communes, par exemple, dans d'autres villes, il y a des caniveaux. Mais regardons moi le comportement des résidents de ces villes. Les Quinois, par exemple, si les Quinois prennent les caniveaux comme si je ne sais pas. Donc, on demande aux caniveaux de s'autocurer. Un caniveau ne peut pas s'autocurer. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour curer rationnellement et régulièrement ces caniveaux. Les Quinois se réveillent le matin, ils prennent les déchets pour déverser dans un caniveau. Mais attends. Mais au finish, qu'est-ce que vous voulez? Donc, allez-y comprendre qu'il y a vraiment co-responsabilité dans tout ça. La population aussi est pointée du doigt. Quel genre de population, quel genre de résidents dans des milieux urbains que nous avions? Or, pour rester dans un milieu urbain, il faut incarner au moins l'information régulatrice. Il faut incarner au moins l'urbanité, la culture écologique. Mais lorsqu'aujourd'hui on s'est dit, bon, nous sommes à Kinshasa par exemple, c'est une ville hospitalière, on prend n'importe qui, mais attends, il y a un problème au niveau de mental, au niveau de comportement. L'assainissement devrait être d'abord mental. Avant d'assainir la ville, on doit d'abord assainir les gens qui y habitent. Donc, voyez un peu. Et en dehors de ça, regardez nos rivières. On se dit toujours que dans une rivière, il y a une servitude non édificante. La rivière a des lits. Elle est lit mineur et les lits majeurs. Pendant la saison de pluie, la rivière est obligée d'occuper et les lits mineurs et les lits majeurs. Mais qu'est-ce que les gens font? Pendant la saison sèche, les gens construisent sur les lits majeurs de la rivière. Mais pendant la pluie, l'eau va chercher toujours son lit majeur pour y passer. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que il y a un problème réel, un déficit en matière de logement. Et nous sommes face à un gouvernement ou bien à un pays qui a une faible politique en matière d'habitat, sinon en matière d'urbanisme. Et du coup, la population se prend en charge et cette prise en charge est faite vaille que vaille, tout en énervant même les prescriptions urbanistiques. Voyez un peu.
Voilà, Fiston Ilangi, on va poursuivre avec vous et également avec nos auditeurs qui sont déjà en ligne. Mais avant de leur accorder la parole, dites-nous alors quelles sont les mesures qu'il faut prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors de façon efficace pour prévenir ces inondations?
Bon, ce qu'on doit faire, d'abord ici par exemple dans la ville de Kinshasa, il y a des communes, il y a des quartiers qui naissent comme cela, des quartiers spontanés. Qui n'ont même pas de caniveaux. Donc, on n'a même pas assaini la trame en amont. Je demanderais tout simplement de procéder peut-être à la viabilisation, sinon à l'assainissement de la trame d'accueil de la ville de Kinshasa. On voit cette trame et puis on assainit cela. Et ayant fini cela, on va passer maintenant au redimensionnement des caniveaux. Parce que les caniveaux que nous avions aujourd'hui, beaucoup de caniveaux que nous avions aujourd'hui, ne sont plus fonctionnels. Il faut les redimensionner, il faut les contextualiser par rapport au débit des eaux à évacuer. Ça, c'est de deux. De trois, je demanderais aussi, aujourd'hui, on parle des embouteillages dans la ville de Kinshasa, tout ça. Mais or, la ville de Kinshasa, par exemple, c'est une ville insulaire. C'est une ville qui est traversée par plusieurs rivières. On pouvait exploiter ces rivières comme une potentialité dans la ville, les curer, les aménager rationnellement. Ça pouvait tant soit peu minimiser l'impact des embouteillages, de cette problématique des embouteillages de la ville de Kinshasa.
Oui.
Imaginez la rivière Ndjili. La rivière Ndjili traverse, ça commence là-bas, ça traverse, ça vient se jeter jusqu'en ville. Je ne suis pas obligé, si je suis par exemple à Ndjili, de prendre les taxis pour venir à Gombe. Je pouvais exploiter cette rivière et descendre directement de l'autre côté. Ouais. Donc, or, il y a des textes qui existent en matière d'urbanisme. Sur le rivière, il y a des servitudes qui sont là. Mais pourquoi on n'arrive pas à appliquer cela?
Bah, ouais. C'est ça justement la grande question. Attendez, on revient à vous, le temps d'accorder la parole à Gilbert Massoudi, qui nous appelle de Kindu, dans le Maniem également. Diéfano, qui est à Kabinda. Gilbert Massoudi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les intervenants.
Voilà, ne soyez pas long, Gilbert, parce qu'on est presque à la fin de ce magazine. Allez-y, c'est quoi votre question, votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Là où il y a les inondations, l'État doit d'abord payer l'État niveau dans toutes les villes. En plus, la population aussi, doivent suivre le modèle de l'État. pour éviter les inondations qui se passent dans les différents milieux. Maintenant, les populations peuvent suivre le modèle de la ce que l'État faisait pour la création de différents caniveaux, pour protéger les différentes maisons qui sont à côté du fleuve Congo. Et surtout, ceux-là qui sont à côté du fleuve doivent aussi construire leurs maisons en matériaux durables pour éviter les différents scandales. C'est ce que j'ai préparé.
Merci Gilbert Massoudi depuis Kindomaniema. Diofano, vous êtes à Kabinda, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous écoute rapidement. Votre question, préoccupation par rapport à ces sujets sur comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie.
Oui, je voudrais seulement dire que ce qui cause beaucoup d'inondations dans nos villes, c'est le manque de calinisation des eaux. Puisqu'ici à Kabinda, vous pouvez imaginer l'eau de pluie quitte et parcourt une distance peut-être de 3 km à 4 km pour se rendre dans une érosion, je ne sais pas qui est dans quelle profondeur. Et même au moment où je vous parle, tout près de la maison, de ma maison, il y a un étang dès qu'il pleut, difficile de passer. Même nos autorités passent, même là-bas, même le cortège du gouverneur passe toujours dans cet état-là. Et on a même surnommé l'étang-là au nom d'une autorité que je réserve. Alors, moi, j'aurais souhaité, c'est que, comme la Constitution prévoit dès qu'il y a un nouveau président, on fait les remaniements. On devrait le faire même au niveau local même, donc du président jusqu'au chef du quartier, pour que les choses aussi changent en RDC. Mais quand on compte toujours l'ancienneté de notre pays, je pense que ce pays ne pourra jamais changer et on va toujours assister à ce genre de problèmes chaque année là.
Merci Diofano. Depuis Kabinda, on revient à notre invité, Fiston Ilangi, qui est urbaniste. Fiston, comment vous réagissez aux interventions des auditeurs? Et puis vous allez conclure par rapport à ces sujets sur comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie.
Voilà, merci beaucoup. J'ai suivi le premier intervenant. Il a abordé dans le même sens, disons qu'on doit canaliser tout ça, viabiliser les sites. C'est que je parlais de l'assainissement de la trame d'accueil d'une ville. On doit arriver à assainir cela. Bon, le deuxième intervenant, il a parlé de changement, sinon de remaniement au niveau local, ainsi de suite. Ça, c'est très important aussi. C'est parce que le secteur de l'urbanisme en soi, c'est un secteur qui pose problème et c'est un secteur qui touche également à la vie des citadins ou des habitants. Mais quel est le profil des gens qui animent ces secteurs d'urbanisme au niveau national, au niveau provincial, au niveau local? Ça aussi, c'est un élément. Donc, on constate que les animateurs de ces secteurs cruciaux, de ces secteurs salvateurs, et techniques, ce sont des gens qui n'ont pas de profil d'urbaniste. Ça, c'est un élément. Parce que la formation d'urbaniste en RDC, ça date, ça n'est pas de très longtemps ici. Le pays n'a pas pris des soins urbanistes. Vous voyez? Donc ça, les deux interventions, je suis complètement d'accord avec eux. Donc, nous sommes face à un problème réel, d'où maintenant le gouvernement devrait faire quelque chose. Donc, on doit gouverner, se prévoir. On devrait faire cela depuis très longtemps. Nous sommes déjà pendant la saison de pluie. Toutes les propositions qu'on va donner, est-ce que le gouvernement sera à mesure d'appliquer cela pendant un temps record? Je me dis, ça aussi c'est un problème. Parce qu'ils avaient le temps de faire cela depuis très longtemps. Mais maintenant là, c'est très compliqué. Donc, il y a des gens qui construisent dans des endroits qui étaient frappés de servitudes non édificantes. Il y a des zones qu'on avait déclarées qu'on ne devait pas y construire, y habiter. Mais les gens construisent. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas d'endroit du rester. Donc, les déficits de logement, la politique de logement, la politique d'habitat, d'urbanisation de notre pays, c'est quelque chose qu'on doit revoir.
C'est là. Voilà, c'est... Voilà, c'est bien dit, Fiston Ilangui. Nous rappelons que vous êtes urbaniste. Merci d'avoir été des nôtres pour parler de cette question. Comment prévenir les inondations dans les grandes villes de la RDC en saison de pluie? On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup.
Fin de ce numéro du magazine Okapi Service de séjour. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Polydor Basunga qui est à la mise en onde, à Tati Mapuku qui l'a réalisé et coordonné au micro. C'était Marcel Ngomombala, émission présentée sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro du magazine Okapi Service. D'ici là, prenez soin de vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à tous. Ce magazine Okapi Service juste après les infos.